ça s'organise en rebond, en fait, entre mon métier de chorégraphe, d'organisateur, mon métier de créateur de spectacle, mon métier de pédagogue, parce que j'enseigne aussi, et puis mon métier d'interprète.
D'accord.
Donc il y a une sorte de rebond comme ça, de jonglage comme ça, incessant entre toutes ces fonctions-là. Ce qui est, quand elles sont à l'équilibre, c'est passionnant. C'est un métier où on ne frôle pas l'ennui. Après, ça demande voilà, beaucoup d'organisation, de force de travail aussi conséquente, parce que ce sont des métiers qui peuvent être vite précaires, parce que personne ne nous attend.
Comment votre amour pour la danse s'est manifesté? Et quand avez-vous décidé d'en faire votre vocation?
Alors, l'amour pour la danse, ma passion pour la danse s'est manifestée assez jeune. Hein. J'étais déjà... je n'ai pas un souvenir précis d'un déclic, hormis le fait que la tradition familiale était de regarder les comédies musicales. Mmh. Donc je suis un pur produit des comédies musicales américaines et françaises. Ça a été, mais je pense, mes premières visions de ce que pouvait être la danse. Et puis ensuite, j'ai eu un goût assez rapidement prononcé pour la danse, mais c'était plutôt dans les soirées festives. Donc j'ai eu une approche assez immédiate avec la danse comme un plaisir au travers de ces films-là dont je parlais. Mmh. Et la danse comme une, non pas une pratique en club ou en association ou en structure, mais comme une pratique intime dans les fêtes. Et c'est ensuite, un peu plus sur le tard, vers 16 ans, que j'ai rencontré la danse hip-hop. J'habitais en Allemagne à l'époque.
Mmh. Où ça?
À Baden-Baden.
D'accord.
C'est une belle ville, pas très loin de Strasbourg, une heure de Strasbourg. Et c'est, voilà, ce sont les premières images, c'était à l'époque des années 80, les premières images qui arrivaient des États-Unis. On voyait des types faire des choses incroyables, tourner sur la tête, bouger sur une musique, un rythme fou. Et donc, avec mes cousins à l'époque qui habitaient la même ville, nous avons créé un groupe. Et avec ce groupe, voilà, on s'entraînait au lycée. Dès qu'on avait un peu de temps, c'était une passion dévorante. On allait en discothèque faire les concours, on allait danser dans la rue avec les cartons et le poste. Et le poste, c'était des gros postes qu'on mettait sur l'épaule. Le premier kiff, c'était celui du hip-hop. Et après, j'ai eu la chance de faire une année, deux années de fac à Strasbourg. Comme option, j'avais pris danse avec une dame incroyable, Madame Baffalio, et qui, elle, nous a amené en fait sur le terrain de différentes danses, les danses de salon, la danse contemporaine, la danse jazz, la danse africaine, mais avec une caractéristique quand même, en nous amenant vraiment sur le terrain de la danse contemporaine. Mmh. Et ça a été foudroyant pour moi, parce que cette danse contemporaine, moi je la définis volontiers par la grande ouverture qu'elle permet, on y met un peu ce qu'on y veut, ce qu'on souhaite, donc ça permet de créer un langage, un vocabulaire, un univers, donc j'ai trouvé un espace de liberté fabuleux, et du coup, il y avait des spectacles de fin d'année en théâtre, où ça a été mes premières planches. Époque à laquelle j'ai commencé à m'inscrire à un concours de la Fédération Française de Danse. C'est une fédération qui travaille avec les amateurs, ou les amateurs qui souhaitent devenir professionnels parfois. Mmh. Et j'avais créé un solo qui a été récompensé en régional, et quelques premiers prix national. Mmh. Une belle aventure. C'est une très belle aventure. Et du coup, ça m'a donné un petit peu de fierté, mais surtout ça m'a donné l'idée de croire un petit peu en cette voie, pour moi, qui pour moi n'était vraiment qu'une voie d'amateur, de plaisir. Mmh. suis parti travailler à Paris, à la poste à l'époque, contrôleur à la poste.
Ça
Et
change.
ouais, ça change un peu. Je suis parti à Paris pour, ben voilà, pour gagner ma vie et pouvoir assumer de prendre des cours de danse, donc avec ce métier-là. Et après, je suis parti une année à faire mon armée, parce qu'à l'époque on faisait l'armée en Allemagne. Et à mon retour, j'ai décidé de quitter la poste, de démissionner pour commencer le travail avec une petite compagnie, Phoebe Deluze, à Montpellier.
D'accord.
Donc j'ai vraiment mis le pied à l'étrier, entre-temps en prenant des cours de danse, de jazz, de contemporain, etc. Mais j'ai mis vraiment le pied à l'étrier à ce métier-là, avec cette compagnie à Montpellier. J'étais en emploi aidé à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé pour d'autres compagnies. Je suis parti vivre en Suisse pendant 1 an et demi
D'accord.
pour le travail aussi. Et puis là, j'ai rencontré un autre déclic qui était celui de l'improvisation, la danse contact et l'improvisation.
D'accord.
Compagnie Philippe Serre. SAIRE et à Lausanne. Et là, ça m'a, voilà, ça m'a ouvert encore d'autres portes, et puis surtout celle de la danse contact et celle de l'improvisation. C'était pour moi un déclic, un endroit, un domaine dans lequel on pouvait, c'est un peu ce dont je parlais avec la danse contemporaine, ça réouvre déjà le spectre des possibles. Et là, pour le coup, tout était possible dans ces pratiques-là. Et comme j'ai pas de formation vraiment, on va dire, ni institutionnelle ni académique, j'ai décidé d'aller faire une formation aux États-Unis pendant 4 étés de Body Mind Centering.
D'accord, c'est quoi exactement?
C'est une pratique somatique, un peu à l'instar de Alexander, Feldenkrais, la kinésiologie, des choses comme ça. Permettait, alors c'était pas vraiment une formation dedans, c'était une formation sur le corps. On travaillait sur les différents systèmes du corps, sur les schémas de développement du corps. Donc c'était pas une formation en danse, mais c'est une formation que j'ai souhaité faire parce qu'elle était vraiment, elle permettait de rentrer en contact avec l'instrument, hein, de cette pratique. Je voulais pas uniquement prendre des cours d'anatomie, mais là voilà, c'était une pratique somatique à la fois qui sert au développement au bien-être. Donc les gens qui font cette formation en sortent praticiens du bien-être, d'autres professeurs de yoga, d'autres travaillent cela pour travailler la psychanalyse, etc. Bon, c'est une formation très très ouverte. Et moi, il m'a intéressé de la parcourir pour la danse, pour en savoir plus sur le corps.
4 étés dans la même institution, c'est ça du coup, aux
Voilà, quatre
États-Unis.
étés pendant 7 semaines, du côté de Amherst, dans le Massachusetts. C'était une formation diplômante, voilà. Mon diplôme de praticien, Body Mind Centering.
Ça doit être pas mal à faire quand même, hein, notre langue.
Exactement, c'était fascinant pour tout ça. On se retrouvait, il y avait des gens un peu du monde entier. On était début 150, on a fini à 70. Il y avait des gens de Taïwan, de Corée, des États-Unis, d'Europe, du Mexique. Et puis chaque année, on se retrouvait dans Massachusetts, hein, c'est une terre très grasse, très posée. Il y a en anglais grounded, un endroit qui est un endroit d'enracinement. Donc c'était un. Et puis c'est une pratique qui n'est pas une pratique uniquement intellectuelle, mais c'est une pratique qui utilise beaucoup les mises en expérimentation. Donc c'était vraiment passionnant. Et c'est de retour à Montpellier que j'ai décidé de fonder ma propre compagnie.
D'accord, la suite de cette formation,
Voilà,
elle
voilà. Pendant laquelle j'étais, quand je revenais en France, j'étais interprète pour une compagnie, différentes compagnies. Et là, j'ai décidé de monter ma compagnie. Et puis, c'est comme ça que j'ai démarré la compagnie Enlore.
D'accord. Donc ça, ouais, je vois ça, tout a convergé vers la création de cette compagnie, de mettre en œuvre toutes les compétences acquises.
m'intéressais aussi au travers de la constitution de compagnie, c'est que être artiste, comme je le vivais à l'époque, ça pouvait me. Je trouvais ça un peu enfermant, c'est-à-dire on passait du studio au théâtre et c'était un peu hors sol. Et le métier de chorégraphe m'intéressait bien parce que déjà on pouvait créer vraiment à loisir ce qu'on avait envie de mettre en œuvre. Et puis dans le métier de chorégraphe, c'est travailler à différentes strates de réalité, comme celle de l'administration, de la gestion, du politique, du culturel, du social. Donc j'ai l'impression que ça m'ouvrait à différentes manières d'être au monde.
Votre approche presque innocente et cet esprit itinérant peuvent se retranscrire à travers vos œuvres. Comment ces sujets sur le corps, la mémoire, notre relation au territoire et les questions d'identité vous sont venus à l'esprit? Est-ce dû à vos voyages ou à la volonté de briser des barrières en évoquant ces sujets assez complexes?
Ça provient, je pense, alors moi j'ai une enfance très nomade entre l'Afrique noire, l'Allemagne, la France. Et du coup, je pense que c'est pour ça que très rapidement j'ai travaillé à ces questions au démarrage de l'identité et du territoire. Donc, toutes les pièces étaient une sorte de déclinaison comme ça, de questionnement sur ce sujet-là, jusqu'en 2016. À partir de ce moment 2016, bah, j'ai eu un retour de 5 mois passés en Corée du Sud. J'ai changé de travail en m'orientant vers la question de la mémoire et de l'oubli.
D'accord.
Il questionne toujours la question d'identité, enfin, c'est toujours en lien avec la question d'identité d'ailleurs. Mais voilà, de manière plus précise, ça, parce que ma mère étant Alzheimer, entre-temps, je m'étais décidé de me dédier à cette recherche, à ce travail-là.
Enfin, vous êtes sur plusieurs tableaux à la fois. Comment ça s'organise quand vous arrivez à vous organiser au sein de la compagnie?
C'est un le nerf de la guerre, c'est le planning. Donc ça s'organise en rebond en fait, entre mon métier de chorégraphe, d'organisateur, mon métier de créateur de spectacle, mon métier de pédagogue, parce que j'enseigne aussi, et puis mon métier d'interprète.
D'accord.
Donc il y a une sorte de rebond comme ça, de jonglage comme ça, incessant, entre toutes ces fonctions-là. Ce qui est, quand elles sont à l'équilibre, c'est passionnant. Un métier où on ne frôle pas l'ennui. Après, ça demande voilà, beaucoup d'organisation, une force de travail aussi conséquente, parce que ce sont des métiers qui peuvent être vite précaires, parce que personne ne nous attend. Hein.
Appelé, ça a toujours été une terre de migration et je trouve donc pertinent votre travail dans la mesure où le mouvement, l'errance et le renouvellement aussi parfois reflètent cet aspect de la ville, un changement constant, dynamique et douce à la fois par son climat, où les frontières peuvent être floues, voire brutales entre certains quartiers. Donc comment Montpellier vous a-t-elle inspiré?
Montpellier m'a attiré par sa dynamique déjà, parce qu'à l'époque, encore maintenant, c'est une ville quand même très repérée pour la danse. Donc, elle m'a fasciné pour sa qualité de dynamisme, elle m'a fasciné bon, par son climat aussi, la qualité de vie qu'elle offrait. J'ai habité à Paris pendant 2 ans, donc j'avais hâte de me retrouver dans un lieu qui soit propice à, ouais, au bon vivre. Et puis après, c'est une ville aussi passionnante parce qu'elle est mine de rien, pleine de fractures, de contrastes. Je travaille actuellement sur le quartier des Cévennes, donc on commence un travail pour 3 ans. Nous allons être en résidence dans un collège, dans le quartier des Cévennes. Et j'ai commencé la semaine dernière avec une déambulation dans le quartier, un urbaniste, une scientifique, un plasticien urbain.
Ah, c'est super ça.
Ouais, c'est un joli projet là, et qui est intéressant parce que ça permet de revisiter la ville un peu autrement. Donc, Montpellier a été un peu cette terre d'accueil il y a déjà.
Vous avez des artistes, des chanteurs, voire même des scientifiques qui influencent votre processus de création ou votre création même.
Régulièrement, ben là par exemple, je parlais de Luc Gwandinski, l'urbaniste avec qui je travaille, qui à l'époque, j'avais collaboré avec lui déjà pour un triptyque de solo avec un performeur BMX, un Yamakasi, un danseur hip-hop. Et Luc, l'urbaniste, était intervenu à mes côtés pour observer comment ces pratiques urbaines viennent écrire aussi la rue, la pratiquer, mais l'écrire d'une certaine manière, la contredire parfois, la questionner à travers les flux, les textures, l'hospitalité, etc. Sur la maladie d'Alzheimer, le dernier projet, donc évidemment, j'ai travaillé avec des gériatres, la scientifique dont je parlais en neurosciences, Anne Marciac, qui elle m'a épaulé, m'a donné aussi quelques. Si on conseille en tout cas les informations concernant cette maladie, cellulaire, au niveau social. Donc voilà, j'aime bien m'entourer de personnes qui sont des spécialistes des sujets. Donc créer une pièce, c'est aussi un prétexte à questionner un sujet particulier, des sujets particuliers. Et j'aime bien m'entourer de gens qui vont ouvrir le spectre du travail et rentrer en mener une enquête aussi, faire une création. Enquêter, il y a toute une phase d'exploration, d'investigation.
Non, c'est super riche, je trouve, c'est vraiment intéressant. Il y a tout de même un fil directeur, même s'il y a plusieurs approches et thèmes traités. Après, donc, oui, par rapport au. Ça n'a rien à voir avec le FIS, la prestation sur Flagrant Délit. Parce que ça m'a fait penser au FIS aussi à Montpellier, le festival. Je me suis dit, peut-être que vous avez influencé.
Alors non, parce que moi j'ai commencé la danse par le hip-hop, donc les pratiques urbaines c'est quelque chose déjà un peu, c'était dans mon ADN déjà. Et puis après j'ai fait des belles rencontres avec ces praticiens urbains. Voilà. Après je me suis rapproché du FIS à l'époque, je me rappelle. Mais non, ça m'a pas tellement influencé, c'était dans l'air du temps. Déjà dans l'air du temps et déjà dans mon ADN, dans ma pratique, questionner cette fine qualité, ce rapport à la danse, elle flirte aussi avec l'engagement, l'exploit, le risque et la sensibilité. Et l'éthique aussi, c'est ce que j'ai rencontré avec ces praticiens-là, qui ont au bout d'un moment une pratique, quand on la pousse, elle ouvre une éthique, une façon d'être.
Une éthique, oui, notamment. Là, c'était une prestation sur la machine homme. Je sais que ça se fait de plus en plus sur l'IA maintenant. On parle beaucoup d'IA, machine. C'est vrai que c'est super intéressant et il y a toutes les questions d'éthique qui reviennent. Du coup, notamment sur les œuvres réalisées par des robots. Est-ce qu'elles appartiennent aux robots ou elles appartiennent à qui? Enfin, il y a le droit de propriété qui rentre en jeu.
Ouais, carrément. Le programmateur, le robot.
Donc du coup, pour en revenir vers les prestations, il y a du coup de Way We Are, c'est ici soit-il, les oublier, et autrement qu'ainsi, on peut l'englober dans ces deux. Dans ces deux prestations, c'est ça? C'est la dernière que j'ai pu voir autrement qu'ainsi.
Voilà, autrement qu'ainsi, qui soit-il, les éblouis sont des pièces qui traitent de cette nouvelle démarche que j'ai entamée à partir de 2016, qui concerne la mémoire de l'oubli.
Donc oui, on retrouve ces mémoires, ce thème de mémoire.
Voilà.
D'identité déchirée, je dirais même parfois, de dissociation. Aussi.
Ouais, l'identité altérée, dissociée.
Et du coup, écrire cette pièce, est-ce que ça a permis de mettre les choses en perspective, je dirais? Est-ce que par rapport à vos autres prestations, comment ça a pu alimenter vos réflexions? Comment on peut revoir? les prestations qui ont pu être effectuées sous un autre œil.
Les propres orientations de mes spectacles, c'est ça?
Oui, bah, parce qu'on retrouve toujours ce même sujet en fait de
Ouais.
mémoire. C'est quand même lié, je trouve, même si c'est un autre sujet, ça traite sur la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas du tout séparé, je trouve, des autres prestations au niveau des thèmes. Donc est-ce que ça a permis de re-questionner ses prestations précédentes? En fait, d'avoir un nouvel œil en fait sur ces thèmes.
Alors, je ne sais pas si j'ai un nouvel œil, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir à la fois changé de sujet, pas changé d'objet, mais pas changé de sujet, en fait. Ou l'inverse, changé de sujet, pas changé d'objet, ça reste l'humain, toujours. Donc, il y a une sorte de continuité, malgré tout, là, que je sens, que je sais, que je reconnais dans le travail depuis longtemps. Au travers des thématiques hein, qui interrogent quand même l'homme, la place de l'homme, le lien, qu'est-ce qu'être au monde. Donc il y a quelque chose qui n'a pas changé, en fait, là où voilà, il y a des angles de vue un peu particuliers. Là, notamment, maintenant je vais entamer un jeune public, on travaille sur un jeune public, sur la question du vieillir. Sachant que vieillir, ça commence tôt, donc c'est la question du devenir, en fait.
Là, ça me fait penser à Benjamin Button.
Ah
Vieillir, ça commence tôt, ouais. Du coup, auprès des jeunes, c'est au niveau de l'enclos de Saint.
L'enclos Saint-François, c'est là où nous avons été en résidence pendant 3 ans.
D'accord.
Et c'est une maison d'enfants à caractère social. Et maintenant, nous allons être en 3 ans dans le quartier des Cévennes, un quartier prioritaire de Montpellier.
D'accord.
Et là, du coup, on va travailler. Ce qui m'intéresse dans ce projet là de nouvelle résidence, c'est qu'on va travailler en lien avec ces jeunes, avec les personnels enseignants. Et puis, on va aussi surtout travailler dans un quartier. Ça m'intéresse bien, justement. Moi, une des particularités de la compagnie, c'est que je travaille sur des spectacles, ben, comme ça fait voir, des spectacles en théâtre, mais aussi des spectacles hors les murs, dans des espaces non dédiés à la culture, a priori. Et ce qui m'intéresse là, c'est de travailler à ce quartier, c'est-à-dire de pouvoir bah, continuer moi, d'augmenter, d'approfondir ma lecture en fait de l'urbain, de ce que peut être la ville, et puis cette relation entre les habitants et les lieux d'habitation. Cette question que je partage avec l'urbaniste, de territoire apprenant, d'apprendre de son territoire.
C'est vrai qu'on redécouvre toujours les espaces. Il y a toujours des choses qu'on ne voit pas, puis qu'on redécouvre.
Exactement, et puis il y a des gens, voilà, c'est le métier de vous les montrer un peu autrement, et c'est intéressant, voilà, d'apprendre à lire, hein. D'apprendre à écrire, d'apprendre à lire. Donc avant d'apprendre à écrire dans l'urbain, il faut aussi apprendre à le lire avec différents regards. D'où le travail que je mène avec le plasticien urbain, avec l'urbaniste, avec la neuroscientifique, les sociologues aussi qui vont les accompagner.
C'est super intéressant ça. J'avais fait c'était un sujet d'étude sur la paillade. Du coup, enfin, il y avait eu la construction de la ZAC. Et mon sujet, c'était de connecter les deux quartiers parce que ça faisait vraiment séparation entre l'éco-quartier, la ZAC des Pierres Vives et la paillade. Donc,
Ah oui.
c'était un peu comme. Comme en neurochirurgie, connecter deux parties, je trouvais assez différentes et essayer de trouver une homogénéité, sachant qu'ils voulaient faire un espace commercial dans la ZEC des Pierres-Vives, alors qu'il y avait déjà des commerces de proximité à la Payade qui commençaient à être délaissés en fait par manque de financement. Donc voilà, j'avais travaillé sur ça, comment on pouvait aussi prolonger la piste cyclable. Parce que ça faisait vraiment séparation. Il n'y avait pas du tout prévu de piste cyclable du côté de la Payade. Mais au niveau de la ZAC, il y avait des pistes cyclables prévues. Bon, maintenant, je ne sais pas comment c'est organisé. Mais en 2015, déjà, ça faisait Ça faisait une nette séparation. Et je trouvais intéressant de voir comment ces deux quartiers s'articulaient en fait, pour créer une homogénéité. C'est vrai que c'est pas évident parfois. Voilà, d'autres identités. Enfin, c'est la Paillette, c'est un vieux quartier, je dirais, parce que ça a commencé sa construction dans les années 60.
À l'époque, on faisait des tours.
Ouais, les grands ensembles. Et enfin voilà, ils ont sont approprié l'espace. Puis la présence de ce nouveau quartier, comment ça change la réappropriation de cet espace ou comment il se déplace au sein de ce quartier.
Et du quartier des Cévennes, tu connais un petit peu?
De nom, mais après, non, j'ai jamais vraiment circulé, enfin marché.
Quartier, ouais, étonnant, parce que c'est un quartier que personne ne connaît vraiment. On circule, on passe un peu rue Hidalgo par là.
Oui, c'est ça.
Mais les gens connaissent pas trop. Les gens connaissent Samoson, la Paillade, connaissent le petit bar. On n'en parle plus. Et pour autant, c'est vraiment un quartier prioritaire aussi. Tiens, voilà, pas mal d'enjeux aussi. D'enjeux communautaristes, etc.
Tout cas, c'est super bien du coup d'avoir une résidence là-bas. Ça va permettre de remettre les choses en
Et puis on va
perspective.
avoir le privilège d'avoir le temps, 3 années, c'est intéressant, ça va nous permettre de. C'est pas la première fois que j'interviens dans des quartiers, dans des collèges, dans des lieux particuliers, mais en général, on y intervient une semaine, 2 semaines, allez, un mois maximum, puis on s'en va. Là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir peut-être observer un peu les fruits des actions qu'on va y mener. Et cette question du temps, elle est importante en fait.
Parce que là, vous avez un thème précis ou
Donc oui, ce projet s'appelle s'appeler En devenir.
Ah d'accord, ok. Il va être renouvelé, enfin, il y a une rénovation urbaine qui se fait, j'imagine, du coup.
Alors, il y a une rénovation urbaine seulement en quartier, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment on peut travailler avec les habitants. Alors, on a une grande chance de commencer à travailler déjà à partir du collège, parce que là, on va rencontrer les jeunes. Ça va être intéressant, c'est un accès aux habitants du coup au travers la jeunesse, le collège, les écoles primaires. Et puis, force d'action, de spectacles, de temps de pratique, mais aussi on va créer des protocoles qui vont nous permettre d'aller dans la ville.
D'accord. Il y a je pense que c'est pas mal de voir. Parce que à la Payenne, par exemple, il y avait des projets de résidentialisation. Et il y avait cet aspect de protéger certains bâtiments, en fait, qui devenaient. En fait, il y avait des sous-quartiers de quartiers. Et enfin, ce qui en est ressorti, c'était que mettre les plus de portails à l'entrée. Enfin, vraiment mettre des grillages. Au niveau des bâtiments, ça créait encore plus d'incivilité. Il y avait beaucoup plus de tags, par exemple.
Ah oui.
Ouais. Dans ces résidentialisations, c'était les habitants qui eux-mêmes enfin, pouvaient décorer comme ils le souhaitaient leur bâtiment, enfin, leur palais. Ça, je trouvais ça intéressant, là, toute cette partie art. Et oui,
Ouais, c'est ça.
il y a de quoi faire avec la danse en plus. Je pense au niveau des cages d'escalier, des petits trucs comme ça.
Ça va être à la fois un terrain de jeu incroyable, très, très varié. Et puis en même temps, voilà, la danse, elle amène aussi la question du corps. Donc la question du genre, de la place de l'homme, de la femme, qu'est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qu'on peut autoriser encore en France actuellement, dans certains quartiers, comment le corps peut être, comment on peut porter encore nos corps d'une certaine manière ou d'une autre. Ben là, en faisant cette visite à la déambulation. Une sorte de parc d'immeubles qui jouxte un parking souterrain avec une grande dalle en béton. Là, ils avaient posé 3 bancs. Et bon, pour nous, quand on a visité le quartier, on s'est dit que c'était sympa, les bancs, c'est un endroit où on peut se poser. Et la personne qui nous accompagnait, qui est le quartier, nous disait que ces 3 bancs ont fait l'objet d'une polémique incroyable, qu'en fait, les papas, les maris qui habitaient sur la barre d'immeubles en face, ne voulaient pas de ces bancs parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit leur femme s'asseoir dessus et qu'on puisse mater les.
D'accord, ok. Donc c'était au niveau d'une
Donc,
place, j'imagine, assez ouverte, c'est ça?
non, même pas,
Non,
même pas. C'était
ok.
assez hallucinant, c'était improbable comme réflexion, quoi. Donc comment
Ouais.
on pouvait, enfin comme dans, voilà, dans la, tu connais un peu la culture du Maghreb, mais en fait la femme ne doit pas se plier pour, ne doit pas se plier pour faire ses lacets, il faut s'accroupir, parce que tu te plies, tu limites tes fesses, enfin voilà, ce genre de choses comme ça, où voilà, on sexualise le corps de la femme, alors qu'en fait, voilà, et dans les postures quotidiennes, urbaines, tout à fait légitimes et normales. Donc voilà, venir avec la danse dans ces quartiers-là, c'est pas anodin non plus, parce que c'est aussi venir avec, voilà, avec une façon d'être à son corps et redonner liberté à cet endroit-là aussi.
Ça me fait penser, j'avais vu un document reportage ouais, sur des femmes, enfin une représentation dans la rue. Et c'était donc organisé avec des femmes volontaires pendant quelques jours, voilà, s'entraîner pour danser et se réapproprier l'espace urbain dans la rue, du coup, voilà. Ouais, c'était super intéressant, je trouvais, parce que les passants, ça ne s'y attendaient pas. Donc d'un coup, il y a des femmes qui viennent danser et se réapproprier l'espace. Et puis les gens, au final, ils se sont intégrés même dans la danse.
Elle est bonne. Bah oui, elle a une fonction de lien social aussi incroyable.
Et puis elles se sont retrouvées elles-mêmes à se dire, mais... Pourquoi dans la rue parfois je me sens pas bien? Pourquoi dans telle rue je longe le mur alors que bon je pourrais marcher correctement enfin voilà le trottoir il y a tout le monde et toute cette espèce de sécurité aussi c'était super intéressant.
Bah ouais, carrément. C'est l'hospitalité en nourrice, la sensation de sécurité. Et puis, voilà, quelle mesure on prend pour la sécurité. Parfois, comme tu disais, pour l'action des portails, parfois, c'est à contre-sens, finalement.
Après, j'avais une autre question. Donc, désolé, je reviens vers les dernières prestations, notamment Autrement qu'ainsi. Donc, j'avais pu lire que vous voulez du coup danser au nom de personnes qui sont vulnérables, je dirais, et atteintes de la maladie d'Alzheimer, notamment. Dans le cas de votre maman. On l'entend chantonner dans la prestation. Et je trouve cela très poétique, notamment avec sa voix douce qui nous transporte jusqu'à la fin de la prestation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Martha Gonzalez, qui était...
Oui, j'ai vu le lien qu'on m'avait déjà envoyé là.
Ah, voilà.
Ouais, qu'une belle, un beau reportage. C'est joli. Bah, c'est
Oui.
touchant de voir qu'effectivement, il y a des. Quand on perd la mémoire, est-ce qu'on perd toutes les facultés? Est-ce qu'on perd toute la mémoire d'une vie? C'est pas le cas. La preuve en est au travers le chant, hein, de ma mère, là, que je prends dans le spectacle, là où elle a plus accès à la plupart de ses mémoires, et en même temps, quand on remet certaines musiques, elle est capable d'en fredonner l'air et d'avoir les paroles en bouche. Et là, c'est pareil pour cette vieille dame qui finalement bah, retrouve des parties, des fragments de danse, bien qu'étant Alzheimer. C'est-à-dire qu'on peut pas situer l'endroit de la mémoire uniquement dans le cerveau, hein, mais la mémoire, c'est aussi des sens, des perceptions. Je leur partage à longtemps la mémoire en relation aux autres aussi. Nos os portent notre mémoire aussi, notre squelette porte aussi notre mémoire. Donc voilà, il y a plusieurs formes de mémoire et quand certaines sont atteintes, il y a toujours des moyens d'accéder à d'autres fragments de notre mémoire.
D'accord. Ouais, je trouvais que l'urbanisme, d'ailleurs, au niveau de... Il y a beaucoup de d'analogies qu'on peut faire entre le cerveau et l'urbain, la ville, comment on peut connecter des parties.
Ouais, une belle métaphore, la ville connectée, hein. Les smart cities, voilà, qui
C'est
seraient
ça.
connectées. Effectivement, oui. Une belle analogie entre le corps, ses réseaux, et la vie et ses réseaux.
Exactement. Du coup, là, avec le coronavirus, comment vous vivez cette situation? Je ne sais pas si ça a pu alimenter votre réflexion.
Sous plusieurs angles, oui. L'un de ces angles-là, c'est celui du corps. La question de nous sommes en train de changer de corps, nos corps sont en train de se transformer, mine de rien, avec cette expérience. On a eu des corps qui nous deviennent suspects. On a des corps qui peuvent être dangereux, quand même de savoir, quand même de sentir. C'est quand même quelque chose d'assez troublant, de se sentir, pouvoir se savoir dangereux pour ses proches. Est-ce qu'on peut se fier à ces sensations? Finalement, c'est une grande porte-à-faux aussi entre ce qu'on sent et la réalité, ce qui s'éprouve. On peut être asymptomatique, c'est-à-dire malade sans même s'en apercevoir, et contagieux. C'est une forme étonnante, je peux être contagieux. On se savait contagieux dans le rire, dans la vacillité, mais on est aussi contagieux à travers une maladie. Et puis, c'est aussi tous ces masques. Je pense que c'est. Je pense aux jeunes, moi, qui sont dans les cours de récréation, devant leurs professeurs, qui sont masqués, qui apprennent en plein moment des apprentissages et qui apprennent en étant masqués, en cachant une partie de leur visage, de leurs émotions. Donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose qui est en train de s'éprouver d'étrange. La question de la tactilité, nos sens aussi sont mis un peu de côté ou inhibés, ou en tout cas, cette maladie vient re-questionner nos sens. Certains perdent le goût, l'odorat. On nous inflige, sur d'injonctions comme ça, à ne pas toucher, à être le moins tactile possible, à garder nos distances. Après, il y a tout le vocabulaire choisi sûrement à escient, hein, qui est assez tragique. On est en guerre, sensation sociale. Voilà, il y a un vocabulaire assez guerrier, préparateur, clivant, au possible. Donc tout ça, voilà, je pense que le corps, il trinque avec ça. Et comment reconstruit-on son corps en ce moment avec ça? Et quel corps social on est en train de construire à partir de là?
Oui, j'ai vu en plus qu'il y a une derrière, parce qu'il y en a, enfin, au niveau du gouvernement, il y a des lois qui sont en train de se faire. La dernière loi, c'est la loi de sécurité, c'est ne plus filmer les policiers. Donc,
Oui,
ouais, j'ai vu.
c'est assez terrible. Sachant que cette loi-là, normalement, alors elle est pas, on la résume comme ça, c'est comme ça qu'elle peut être résumée dans la rue, hein. On ne peut plus filmer les policiers, alors que normalement, on a le droit de les filmer. La loi dit qu'on n'a pas le droit de les filmer dans les intentions malveillantes. Mais bon, en résumé, ça pose quand on n'a plus le droit de les filmer. Donc, en même temps, ben voilà, ce qui se passe aux États-Unis qui a été filmé, ça passait à l'as comme ça si personne n'avait pu. Et puis filmer ça. Donc oui, il y a des lois comme ça, liberticides. Alors est-ce qu'on est dans une période liberticide? C'est une question hein, qu'on se pose en tant que citoyen, en tant qu'artiste aussi. On peut travailler dans le théâtre, mais on nous sépare des spectateurs. On nous interdit de rencontrer les spectateurs. C'est assez étrange aussi comme situation. Et puis ça questionne du coup la liberté. À quel prix on est basculé entre à la fois le devoir de remplir des missions de bien commun. Et en même temps que ça, il y a des libertés dont on nous prive, et jusqu'où accepte-t-on? Et voilà, une sorte de servitude volontaire, hein. Faut mesurer le dosage. Et puis cette liberté-là, voilà, vous voyez, la liberté, et puis il y a peut-être revisiter cette notion de liberté, qui est souvent elle est brandie un peu comme une chose un peu massive. Où je l'ai, je l'ai pas, et bon, c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. On la garde quand même dans pas mal en France, notre liberté. Mais ça requiert, voilà, ce que j'invoque quand je parle de ma liberté, en fait.
Ouais,
Donc
je
ça vient
vois ça.
re-questionner pas mal de points comme ça. Notre libre arbitre aussi. Mais on reçoit tous les jours en boucle comme ça certaines informations. On les reçoit par les médias, on les reçoit sur les écrans. Donc comment dans cette saturation dans laquelle on vit, on arrive encore à y rester repéré, à faire les choix de continuer de penser, de traiter l'information, de ne pas la recevoir comme telle, mais de l'analyser, de la critiquer. Donc quel libre arbitre on a encore dans cette période? Oui, qui permet de re-questionner, de remettre un peu à plat on croyait acquis, évident. Donc il n'est pas évident de serrer dans ses bras les gens qu'on aime, il n'est pas évident de se faire face, il n'est pas évident de se rapprocher, il n'est pas évident de continuer d'avoir le goût, l'odorat, etc. Il n'est pas évident qu'on puisse faire ce qu'on veut, sortir le jour, la nuit, comme on veut. Il n'est pas évident qu'on puisse aller plus loin qu'un kilomètre de chez soi. Bref, c'est beaucoup d'évidences qui sont remises en jeu.
Vous avez toujours la possibilité tout de même de vous représenter en France, enfin de...
Pour l'instant,
Ah oui, non, ok.
pour l'instant, les spectacles sont interdits et on peut uniquement travailler. Mais c'est les seules choses qu'on peut faire, c'est continuer répétition.
D'accord. Ok, donc ouais, ça a un peu cassé votre rythme.
Ça vient enrayer toute la dynamique comme ça des compagnies, mais aussi des théâtres, des festivals en France, enfin en France d'ailleurs. Donc on est dans une zone un peu d'endormissement, d'hibernation, de moments d'hibernation, puis on va voir combien de temps ça va durer et combien de temps on peut tenir, parce que c'est toute une économie, une précarité aussi qui surgit.
Oui, en termes d'inégalité, c'est sûr que ça creuse le fossé, tout l'aspect économique après qu'il va falloir faire face.
Ouais, c'est une sorte de repli, voilà, un repli à la maison, un repli identitaire, un repli communautaire, un repli international. Ça aussi, comment on va pouvoir se déployer après ce moment de repli.
Et à l'étranger, j'ai vu qu'il y a des événements qui ont... Il n'y a pas des événements qui vont se faire, si je me trompe pas.
Sûrement qu'il y a des choses qui vont. Des événements artistiques, je veux dire.
Oui.
Nous, on devait partir en Tunisie, je devais partir en Corée. Là, j'organise un festival aussi, Mouvement sur la ville, là, qui normalement devait débuter début décembre. Et on va en garder juste une soirée en live streaming avec trois chorégraphes. Il va y avoir des Coréens, des Suisses. Tous ceux qui manquent, finalement, ne pourra être invités.
Ah, ok, super. Après, ça permet aussi de d'ouvrir la prestation à l'international aussi, si c'est en live.
Voilà, c'est ça, donc on va tester ça en fait.
Ah, ça, c'est super. Tout le monde peut prendre part.
Exactement, c'est un peu un mal pour un bien, comme on dit, il faut profiter de cette occasion pour essayer d'autres façons d'autres manières. Après, on jugera sur pièce, hein, si c'est intéressant.
Oui, c'est sûr, c'est pas pareil en live et en, ouais, en visio.
C'est un art d'empathie, la danse. On reçoit une énergie, c'est une forme de corps à corps, alors que là, sur les écrans, ça va être un peu différent.
Après, j'ai vu beaucoup de chanteurs en ont profité en fait pour demander à leurs fans de danser sur des musiques. Et ils ont fait leur clip sur les danses des différents fans qu'ils ont sélectionnés.
Excellent, ça.
Ouais. Et du coup, je trouvais ça super bien fait en plus parce que c'était du coup en un seul fil plusieurs vidéos comme ça de personnes qui dansaient et qui se connaissaient pas. Et ça s'enchaînait assez bien, je trouvais. Là, c'était
Quel
Oh Wonder.
chanteur?
C'est un groupe anglais. Wonder. Et la chanson c'était...
Ah, c'est tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. Keep on dancing.
C'est bon. Oui, il y a plein de d'idées qui surgissent, hein, d'autres manières de faire. Continuer d'être créatif.
Oui, c'est ça. Et d'être connecté, du coup.
Au monde et à soi.
Exactement. Thank you. Thank you.